monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 6 novembre 2024. Donald Trump signe un retour historique à la Maison-Blanche.
Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire d'avoir été élu votre 47e président et votre 45e président.
Donald Trump, élu 47e président des États-Unis, il va prêter serment le 20 janvier prochain. Une pluie de félicitations internationales ont marqué la victoire du candidat républicain. Dans cette édition, nous aurons également des réactions de citoyens en Afrique. Bonsoir, bienvenue. Le candidat républicain Donald Trump a battu la candidate démocrate Kamala Harris après des victoires décisives dans plusieurs États pivots. Caroline Presutti de la VOA à Washington était à la soirée électorale en Floride où Trump a célébré sa victoire. Le récit, Nathalie Barge.
Le prochain président des États-Unis est une personnalité familière. Donald Trump va retourner à la Maison-Blanche après son premier mandat et celui de Joe Biden.
Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire d'avoir été élu votre 47e président et votre 45e président.
Donald Trump a attendu plus de 7 heures après la fermeture des bureaux de vote sur la côte Est pour s'adresser à ses partisans.
Il est temps de laisser derrière nous les divisions des 4 dernières années. Il est temps de s'unir.
Ses partisans ont toujours été confiants alors que les sondages montraient un écart très léger avec la candidate démocrate Kamala Harris. Steve McGeer, partisan républicain, affirme que son épouse a passé 10 000 appels pour Donald Trump pendant la campagne.
Je pense que beaucoup de gens sont simplement fatigués de ce qui se passe dans le pays. Tout va mal, la nourriture, le carburant, le logement.
Alea Weber a soutenu le candidat républicain pendant la campagne.
J'aime les 4 années que nous avons passées sous Trump et j'espère que nous pourrons y revenir.
Donald Trump a obtenu plus de 270 grands électeurs pour remporter la présidentielle américaine et la vague rouge a continué au Sénat où les républicains ont pris la majorité. La campagne a été longue, M. Trump ayant survécu à 2 tentatives d'assassinat. Ronnie White était assise derrière lui lorsqu'une balle a effleuré son oreille à Butler, en Pennsylvanie. Elle était présente à Palm Beach hier pendant la soirée électorale. Elle estime que Donald Trump doit garder le même cap au cours des 4 prochaines années.
Je ne pense pas que ce sera facile. Il faut continuer à se battre.
Lors de la soirée électorale, des chapeaux au nom de Trump portant les chiffres 45 et 47 ont été distribués dans la salle. Le Sénat devra d'abord certifier les résultats, puis Donald Trump va prêter serment le 20 janvier.
Direction la Pennsylvanie, un État décisif remporté par Donald Trump. Notre envoyé spécial George Attineau fait le point.
I think we're going to get our country back together again.
Je pense que nous allons rétablir l'unité de notre pays. Le pays a d'autres problèmes. Le monde a d'autres problèmes. D'accord, juste les problèmes d'avortement. C'est donc le but de sa campagne et elle a échoué. Nous avons besoin d'un leader et nous en avons un.
We need a leader and we have one now.
It's just crazy. It's just sad.
C'est fou, c'est triste. Là encore, nous avons un homme qui a attaqué le Capitole à Washington DC le 6 janvier.
Nous revenons pour repartir en Pennsylvanie, où je l'ai dit, un État décisif remporté par Donald Trump et notre envoyé spécial, George Attineau, fait le point.
Pour la deuxième fois depuis 1992, la Pennsylvanie a voté rouge et les deux fois ont tout été pour Donald Trump en 2016 et maintenant en 2024. Les 19 grands électeurs qui mènent le républicain encore une fois de plus à la Maison-Blanche. Kamala Harris, quant à elle, a remporté des grandes villes comme Philadelphie, Harrisburg, mais cela n'a pas suffi. Donald Trump a raflé la mise dans la plupart des counties, comme à Butler, cette ville où il avait échappé à une tentative d'assassinat en juillet dernier. À Philadelphie, je suis allé à la rencontre des partisans des deux camps pour avoir leur réaction sur les résultats des urnes. Écoutons quelques-uns.
Voilà, c'était notre envoyé spécial, George Attineau, depuis la Philadelphie. La victoire de Donald Trump à la présidentielle suscite de grands espoirs parmi les immigrants africains du Texas, notamment dans la ville de Houston. Retrouvons Nanit Talani à Houston. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger. Avec la victoire de Donald Trump à cette présidentielle, de nombreux immigrés africains vivant au Texas, en particulier dans des villes comme Houston, expriment leurs espoirs de voir des changements positifs sous la nouvelle administration. Après 4 ans sous Biden, ils attendent des solutions concrètes aux défis quotidiens tels que l'emploi, l'inflation, l'économie, la sécurité et l'accès aux soins de santé. Pour eux, le retour de Trump à la Maison-Blanche est synonyme de promesses de renouveau. Marie, texane d'origine congolaise, partage ce sentiment. Âgée d'une trentaine d'années, elle vit aux États-Unis depuis l'âge de 11 ans. Marie voit dans cette victoire un espoir de stabilité pour sa famille.
En ce moment, la nourriture est chère, l'essence est chère. Je me sens bien parce que je sais que Trump a gagné. Les choses vont s'améliorer. Ça va être génial. La nourriture va baisser, les prix vont baisser, l'essence va baisser. Je suis donc très reconnaissante qu'il ait gagné. Je suis tellement heureuse.
Pour elle, cette victoire représente donc une possible réduction du coût de la vie, une priorité pour de nombreux résidents de Houston qui ressentent les effets de l'inflation. Notons aussi que le Texas figure parmi les États que Trump a remportés la nuit dernière. C'est la troisième fois que, sans surprise, M. Trump remporte le Texas, un bastion républicain dont les 40 voix électorales sont les deuxièmes plus importantes pour un État américain, juste après la Californie voisine qui compte les 54 voix électorales. Aucun démocrate n'a remporté l'État du Texas depuis Jimmy Carter en 1976. Nanit Talani, Houston pour VOA Afrique.
Chez certains démocrates africains vivant ici aux États-Unis, cette élection de Donald Trump ne change pas grand-chose dans leur quotidien. Yacouba Ouedraogo a rencontré certains d'entre eux à Silver Spring, dans le Maryland. Reportage.
Dans le centre-ville de Silver Spring, dans le Maryland, Sérémalé Miguel presse le pas pour se rendre au travail. Lorsque ce centrafricain est arrivé aux États-Unis, Donald Trump était au pouvoir. Pour lui, sa réélection est une bonne nouvelle.
Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait un an, j'ai eu mes papiers. Ça a bien passé au temps de Donald Trump before. Donc ça a été bien passé, j'ai eu un an, j'ai eu ma green card. Donc je pense que ça va être même. Ça ne va pas être duré parce qu'il ne faut pas faire les crimes, les désordres, tes papiers vont sortir. Le message que j'aurais dit à Donald Trump, que vraiment, grand merci qu'il revient au pouvoir, que ça va changer les États-Unis. Donc les choses, ce n'est pas tout le monde qui travaille. Donc on va aller au marché pour aller payer quelque chose qui est moins cher, donc c'est bon. Donc je dis à Donald Trump de bonne continuité, quoi.
Pour un ressortissant guinéen qui ne veut pas décliner son identité, la victoire de Trump face à Kamala Harris montre que les Américains ne sont pas prêts à avoir une femme à la tête de ce pays.
Non, moi j'avais toujours dit ça. J'ai dit si les démocrates font erreur pour mettre une femme à leur tête là, ils ne vont pas remporter. J'avais dit ça à beaucoup de mes amis, hein, mais personne ne me croyait. Bon, je l'ai laissé comme ça.
Et pourquoi vous avez dit ça? Vous pensez que les Américains ne sont pas prêts à être dirigés par une femme?
Non.
Toute souriante, Lucienne Voltaire est haïtienne. Elle s'est refusée à tout commentaire, mais ce qui la préoccupe, selon elle, c'est le coût de la vie.
Honnêtement, moi, je ne suis pas américaine. Je m'en fous complètement. Donc, c'est ce que veulent les Américains. Il est élu, il est élu.
Mais vous vivez aux États-Unis?
Yeah, je vis aux États-Unis.
Donc, ça va vous concerner d'une manière ou d'une autre?
Je sais que ça me concerne bien. Je vais payer moins pour ma maison, pour les taxes aussi.
Comme Lucienne, les Américains attendent donc le nouveau président sur cette question du coût de la vie, parmi tant d'autres préoccupations.
De très nombreux dirigeants à travers le monde ont félicité Donald Trump après sa victoire ce mercredi. Jacques Aristide.
De la France à l'Arabie Saoudite, en passant par l'Ukraine, les dirigeants mondiaux ont unanimement félicité Donald Trump. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté sur l'importance de la coopération entre les États-Unis et les Nations Unies. J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche « la paix par la force » dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste, a réagi le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, se félicitant de l'impressionnante victoire de Donald Trump. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué le plus grand retour de l'histoire. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exprimé son aspiration à travailler avec le président Trump pour la paix et la sécurité dans la région. Il se dit convaincu que les États-Unis soutiendront les aspirations légitimes des Palestiniens. Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a dit se réjouir de la poursuite de la coopération avec les États-Unis, rappelant par ailleurs que l'Afrique du Sud va assurer la présidence du G20 en 2025. Ensemble, nous pouvons coopérer davantage sur le plan économique, promouvoir la paix et répondre aux défis mondiaux, a affirmé le président nigérian Bola Tinubu. Nous respectons le choix du peuple américain et adressons nos félicitations à M. Trump pour son élection à la présidence américaine, a écrit le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui fait savoir qu'il ne réagirait pas à l'élection de Donald Trump.
Alexandrine Hon-Lognon avec vous dans Washington Forum cette semaine. Après une campagne électorale marquée par des bouleversements, les Américains ont voté mardi pour envoyer Donald Trump à la Maison-Blanche ou élever Kamala Harris dans le bureau ovale. Un scrutin commencé il y a des semaines avec le vote anticipé qui a vu près de 83 millions d'Américains faire leur choix par ce moyen. La candidate démocrate a promis de s'attaquer aux problèmes économiques. Le candidat républicain a promis d'imposer des droits de douane considérables et d'organiser la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Pourquoi, selon vous, cette présidentielle est qualifiée d'historique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum pour l'analyse des résultats de la présidentielle américaine.
Écoutez VOA Afrique. Dans un instant, la suite de cette édition spéciale élection américaine avec nos dossiers du jour. Outre la Maison-Blanche, les Républicains reprennent le contrôle du Sénat et pourraient conserver la Chambre des représentants. Quel pourrait être l'impact d'avoir le contrôle de l'exécutif et du législatif? Eric Manirakiza a joint à Annapolis, dans l'État du Maryland, Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group.
Lorsque ça va lui donner un gros avantage pour la nomination des juges, par exemple, ça va lui donner une plus grosse influence sur le système judiciaire. Et ça, c'est très, très important. Pour les grosses lois autres que ça, et ce sera moins important parce qu'il faut au moins 60 votes au Sénat, alors qu'il en a que 53 quand même. Bien que ce soit une majorité, il faut que ce soit une majorité plus absolue pour qu'il puisse faire passer des grandes lois sur les réformes fiscales et autres. Mais c'est surtout pour le côté, le contrôle du judiciaire, si vous voulez, des autorités judiciaires, ça pourrait lui rendre un gros avantage.
Lors de la première administration Trump, il n'a pas réussi à adopter les versions les plus extrêmes de ses idées politiques.
Je ne pense pas, parce qu'à nouveau, comme je vous disais, pour changer des lois comme Obamacare, qui sont quand même très populaires, il va lui falloir 60 votes au Sénat, et ça, il ne les aura pas. Et on n'est pas encore sûr ce qui va se passer dans la Chambre des députés. Mais quand même, il aura beaucoup d'avantages au point de vue, il aura beaucoup de force au point de vue structure internationale, au point de vue dépenses internationales et sur les affaires politiques internationales, l'Ukraine, Taïwan, etc.
Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group. Quels sont les facteurs qui ont favorisé cette nette victoire de Donald Trump face à Kamala Harris? Eric Mandirakiza a joint dans l'État de Pennsylvanie Nyakala Goke, maître de conférence en histoire et études africaines à Lincoln University.
Les médias américains, les mainstream médias, porte-voix de l'establishment américain, soutenu Kamala Harris, et donc ils ont essayé de façonner l'opinion. Sinon, pour ceux qui écoutaient d'autres sources, il était possible que Donald Trump gagne l'élection. Et donc, il y a des pollsters, je n'ai pas les noms en tête, mais qui avait déjà prédit que Trump gagnerait et qui pourrait même gagner par une large victoire. Donc ça, c'est le premier élément. Donc la plupart des gens ont été donc trompés par les sondages. Je ne dis pas qu'ils étaient fabriqués, mais qui n'ont pas montré toute la vérité sur le déroulement de la campagne. L'autre élément, c'est que le problème économique est une réalité. On peut parler de l'inflation. Moi, je prends un exemple. Il y a un jus d'orange naturel que j'avais l'habitude d'acheter à Whole Foods il y a quelques années à 9 $ ou à 10 $. Là, maintenant, depuis quelques mois, ce jus d'orange-là dans la bouteille, et ça coûte 20 $, juste pour vous donner un exemple. Et c'est comme cela presque sur tous les produits de nécessité ou les produits de consommation. Donc, ce n'est pas parce que Trump tient un discours qui résonnerait, mais c'est parce que les Américains sentent le poids de l'inflation et les démocrates, dirigés par Joe Biden, ont été insensibles aux cris de douleur des Américains. Bon, naturellement, déjà, la question de l'immigration est une question essentielle pour un pays comme l'Amérique, qui est un pays d'immigration. Quand des gens viennent en masse, oui, un homme politique peut utiliser cela pour mobiliser ceux qui voudraient que l'Amérique ferme ses frontières. Et comme on le dit chez nous en Afrique, on ne peut pas cacher le soleil avec une main.
Nyakal Lagouke, maître de conférences en histoire et études africaines à Lincoln University. Les réactions maintenant sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est plutôt bien perçu par les Ivoiriens. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenio, fait le point dans ce reportage.
La nouvelle est tombée. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à saluer le processus démocratique dans lequel ces élections se sont déroulées. Arthur Benga, analyste politique ivoirien.
On ne peut qu'être admiratif, hein, même si c'est un beau système, une vieille démocratie. N'oublie pas qu'en 2020, elle a connu quand même des soubresauts et lors d'une élection qui se démocratise.
Gervais Bouga, militant des droits de l'homme.
Écoutez, moi, j'ai toujours été fasciné par la démocratie américaine. Et c'est vrai que pour une fois, j'ai vu un peu les Américains craindre eux-mêmes pour leur démocratie. Et cela fait pratiquement un certain temps depuis l'arrivée de Trump qui bouscule pratiquement toutes les lignes. Mais on est toujours fasciné. Et vous allez voir que le ciel ne va pas tomber sur l'Amérique. Hein, et l'Amérique va continuer. C'est ça qui nous fascine. Et c'est ce que nous, Africains, nous devons pouvoir copier. La démocratie ne sera jamais et ne va jamais être la fin du monde.
À moins d'un an de l'élection présidentielle, certains Ivoiriens souhaitent que leur pays, qui a connu une crise post-électorale meurtrière, ait le même processus. Joël Stéphane Niakale, américano-ivoirien.
Je prie fort, j'aimerais aussi que ce même atmosphère, ce même engouement et ce même désir se répète aussi dans mon pays de naissance. Nous sommes déjà à moins d'un an aussi de nos prochaines élections présidentielles, qui sont des élections très attendues pour une nouvelle génération, pour un nouveau régime, pour une nouvelle vision. Et je veux vraiment qu'on copie le modèle américain pour qu'on vote en toute discipline, pour que les résultats soient connus en toute transparence. C'est vraiment mon souhait pour mon pays.
Après l'annonce des résultats, un petit déjeuner a été organisé ce matin à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire.
Ensemble, nous célébrons ces valeurs qui nous unissent en tant que nation démocratique. Aujourd'hui, nous célébrons le processus démocratique à travers lequel les citoyens font entendre leur voix. Les élections sont un témoignage de principes de démocratie, la transparence et l'inclusion des principes qui sous-tendent une société florissante.
En Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient prédit la victoire de Donald Trump. Maintenant, ils espèrent que son retour à la Maison-Blanche va mettre un terme au conflit russo-ukrainien et à la guerre au Moyen-Orient. Ange Bichonomayon pour VOA Afrique, Abidjan.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au plus 1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Suite à l'élection présidentielle aux États-Unis qui a vu la victoire de Donald Trump, les Maliens expriment leurs attentes au micro de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
J'espère que c'est quelqu'un qui n'est pas très bataguer. Ce monde actuellement est très... il y a beaucoup de guerres actuellement dans le monde, ce qui fait que partout dans le monde actuellement, les gens souffrent de ces différentes guerres-là. Mais je suis sûr qu'avec Donald Trump, notamment la guerre en Russie, prendra fin en tout cas très bien.
Il sera le président des États-Unis d'Amérique. Il va continuer encore à sauvegarder les intérêts moraux et les intérêts économiques des États-Unis d'Amérique. Maintenant, tout le monde connaît la position des États-Unis d'Amérique dans la gestion mondiale. C'est les gendarmes du monde. Je pense que rien ne va changer pour nous.
Le nouveau président américain Donald Trump va apporter l'amélioration et va renforcer la coopération bilatérale qui est entre le Mali et les États-Unis. Surtout, c'est quelqu'un qui n'aime pas mixer ou bien d'interférer dans l'affaire interne du pays. Et voilà, donc c'est sur ça, c'est sur cette raison que je dirais qu'il sera quelqu'un de bien pour le Mali et il va tout faire pour améliorer la relation entre les Maliens.
Quand ils deviennent des présidents, ils deviennent des présidents pour les États-Unis d'abord. American first, l'Amérique d'abord, ensuite ils vont passer aux autres. Et de mon point de vue, les Africains doivent plutôt attacher la ceinture et essayer de garder des liens particuliers avec les États-Unis.
Voici pour finir quelques réactions au lendemain de la victoire de Donald Trump, vue de Libreville au Gabon avec notre correspondant sur place, Ismaël Obiangenze.
Moi, je pense que c'est une bonne chose. Donald Trump, c'est pour moi un bon président. Et nous espérons que, voilà, avec son arrivée.
Qu'est-ce que ça apporte à l'Africain que vous êtes?
Les États-Unis se portent bien, justement. Le reste du monde va bien se porter. Voilà. Parce qu'on dépend des États-Unis, c'est la première puissance. C'est eux qui déterminent la trajectoire empruntée.
Abdourahmane, vous êtes taximan. On vous voit avec le drapeau américain dans votre taxi. Donald Trump est de retour au pouvoir aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et en fait, pour moi, je pense que c'est pas normal parce que Donald Trump, il avait déjà géré. Il avait déjà dirigé, il doit laisser à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour lui. Parce que nous, on réalise que Donald Trump, avec lui, il n'aime pas les étrangers, en fait, surtout les Noirs. Donald Trump au pouvoir, on a constaté qu'il y avait beaucoup de guerres, dont les trucs, les racistes, en fait, parce qu'on a vécu comment on a tué un Afro-Américain et il était là au pouvoir.
La réélection de Donald Trump sera peut-être la bienvenue pour certains pays, que ce soit en Afrique ou encore en Europe.
Sur quel plan?
Bon, je pense que sur le plan économique, je pense bien. Et ça sera peut-être mauvais pour certains pays en Afrique ou en Europe qui ont certainement pas pu bénéficier par sa politique. Voilà. Et ça a certainement pénalisé certains pays dans le monde entier, on va dire.
Vous pensez à quel pays?
Je parle en termes généraux.
Je pense que c'est une opportunité pour l'Afrique parce que Trump n'a jamais été de ceux qui infantilisent l'Afrique. Au contraire, il a plutôt dit aux Africains qu'il faut qu'ils soient responsables et qu'ils s'occupent en priorité de leur développement, que ce soit économique, culturel, etc. Et il n'est pas le genre de dirigeant qui veut donner le biberon aux Africains. Donc non, ce n'est pas à voir comme une menace, mais plutôt comme une opportunité.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et pour clore cette session d'information spéciale sur la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, je reçois Timothée Donangbaï dans ce studio pour nous parler de quelques détails de cette élection. Bonsoir Timothée.
Et bonsoir Jean-Roger.
Alors Donald Trump a revendiqué la victoire très tôt, d'ailleurs ce matin, et les chiffres ont suivi en confirmant sa victoire. Mais à quel moment on parle de président élu exactement?
Alors, Jean-Roger, une chose est sûre, Donald Trump sera le prochain président des États-Unis. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, techniquement, il y a encore des États qui n'ont pas encore rendu leur verdict. Donc, c'est lorsqu'on aura l'ensemble de tous les États qui auront rendu leur verdict, c'est à partir de ce moment qu'on va le considérer comme président élu. Mais c'est clair que c'est lui qui sera le prochain président.
Et quelques États importants qui restent à comptabiliser?
Il y a le Nevada. Les grands États ont déjà rendu leur verdict, mais il y a quand même quelques-uns, comme le Nevada, en tout cas sur notre carte de la Voix de l'Amérique. On a encore l'Arizona. On a encore le Michigan sur notre carte. Mais ça, c'est des questions purement techniques. Donald Trump sera le prochain président. On va retourner à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain.
Alors, on n'a rien entendu des démocrates, pas de réaction de leur part pour le moment. Est-ce qu'il y aura un discours de concession quelque part de la candidate malheureuse Kamala Harris?
Hier, le camp de Kamala Harris a demandé à ses partisans de rentrer à la maison. Il n'y a pas eu de discours de concession, mais on s'attend à ce que la vice-présidente prononce, concède la défaite dans un discours peut-être ce soir. En tout cas, on attend des détails de ce côté-là.
Alors, on est convaincu que les républicains auront le Sénat. C'est déjà acquis pour les républicains. Qu'est-ce qu'il en est de la Chambre des représentants?
Alors, la Chambre des représentants, on attend encore quelques résultats. Mais là aussi, les républicains se sont donné beaucoup de chances de s'imposer. Donc, on peut déjà dire que le président Trump, lorsqu'il sera à la Maison-Blanche, pourra compter sur un Sénat républicain, ce qui est très important, puisque c'est le Sénat qui confirme toutes les nominations, notamment les ministres, les magistrats, la Cour suprême, quelque chose qui tient à cœur à l'ancien président Donald Trump. Donc ce sera vraiment un atout majeur pour lui et pour sa présidence.
Alors, Donald Trump va prêter serment en tant que président
le 20 janvier.
Le 20 janvier. Quelles sont les différentes étapes de certification d'ici là?
Alors, d'ici là, les grands électeurs vont se réunir au niveau des capitales de leurs États pour déjà certifier les résultats au niveau local. Je pense que c'est le 17 décembre, il me semble. Donc, ils vont certifier ces résultats au niveau local et au niveau de leur État. Et maintenant, ils vont envoyer ces certificats au Congrès qui va se réunir à son tour pour certifier les résultats. Donc, tout cela doit se faire avant le 20 janvier, puisque le 20 janvier, c'est la prestation de serment du nouveau président.
Alors, une opinion personnelle avant de partir. Vous avez regardé l'état de la ville ce matin, de Washington, la capitale. Est-ce que les esprits s'accordent pour célébrer l'avènement de Donald Trump pour la deuxième fois?
Bon, il faut dire que Washington, c'est une ville fédérale, une ville administrative, dont tout le monde a repris son train-train quotidien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que par rapport au sondage d'opinion, l'ancien président Donald Trump a vraiment surpris. Il a battu tous les sondages et il s'est imposé au niveau de la présidentielle ici.
Merci à vous, Timothée Donangmaï. Je rappelle que vous êtes le chef du service français de La Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la victoire du républicain Donald Trump à la présidentielle 2024. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïmard. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wen Panga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.